Accent d'Europe, Juliette Garbrand.
Bonjour, bienvenue dans Accent d'Europe, une émission largement consacrée aux réseaux sociaux et à la désinformation, de l'Albanie à la Turquie en passant par la Slovaquie, avec pour finir le rendez-vous musical du mercredi et la pop espagnole du groupe INS. Les réseaux sociaux, sans cesse plus controversés entre manipulation d'algorithmes, interférences politiques et campagnes de haine, TikTok notamment est dans le viseur de nombreux pays autour du globe, au cœur d'une enquête en Roumanie après des soupçons d'ingérence aux élections, également accusé d'espionnage aux États-Unis. La plateforme chinoise et ses courtes vidéos regardées à la chaîne sont frappées par des interdictions partielles ou totales. Et parmi les derniers pays à sévir figure l'Albanie. Le Premier ministre a décidé de bloquer l'application très populaire chez les jeunes pendant un an. Le chef du gouvernement albanais reproche à l'algorithme de TikTok d'encourager la violence chez les plus jeunes. Mais la mesure ne fait pas l'unanimité. Reportage à Tirana de notre correspondant dans les Balkans, Louis Seyé.
Emmitouflé dans sa doudoune avec sa capuche sur la tête, Amarildo, 17 ans, attend des amis à la sortie de son lycée situé dans le centre de Tirana. Les yeux rivés sur l'écran de son smartphone, cet élève de terminale fait défiler des vidéos de voitures et des scènes de rue.
Voilà, c'est ça TikTok. C'est le réseau qu'on utilise le plus, nous les jeunes. Tu vois, là tu reçois des likes, des vues. T'as vu combien j'en ai reçu là ? 63 000. Là, c'est 2000, ça dépend de la vidéo et de comment elle devient virale, combien de gens la regardent. On met de la musique avec la vidéo et je montre où je suis et ce que je fais avec mes potes.
Fin décembre, le Premier ministre albanais a annoncé la fermeture pour un an de la célèbre plateforme chinoise. Une décision qui survient quelques semaines après qu'un élève de 14 ans a été poignardé à mort près d'une école de la capitale. L'affrontement fatal a eu lieu après un conflit sur les réseaux sociaux. Depuis, le blocage à venir de TikTok est devenu le principal sujet de conversation de la jeunesse albanaise. Amarildo ne veut pas y croire.
Il ne faut pas qu'il ferme TikTok. Parce qu'après, on ne pourra plus regarder de vidéos et se distraire quand on a du temps libre. Moi, je passe chaque jour 4 ou 5 heures sur TikTok et je regarde même des vidéos jusqu'au milieu de la nuit.
Selon la société de conseil Kepios, en Albanie, TikTok compterait plus d'1,5 million d'utilisateurs sur une population totale de 2,4 millions habitants. Avec son algorithme très individualisé, elle est l'application la plus utilisée par la jeunesse qui s'informe principalement à travers ses vidéos ultra courtes. C'est le cas d'Hortensia, une étudiante en droit de 22 ans.
Moi, pour me tenir au courant de ce qu'il se passe dans le monde, je m'informe par TikTok. Mais après, je ne sais pas trop si les autres arrivent à s'informer correctement sur TikTok. C'est vrai que pour les plus jeunes et les adolescents qui regardent des mauvais contenus, ce serait mieux qu'elle soit fermée. En fait, il ne faudrait pas qu'elle soit autorisée pour les plus jeunes.
Contenu violent ou inapproprié, soupçons d'ingérence chinoise, plus de 20 pays dans le monde ont déjà interdit ou limité l'accès à TikTok. En Albanie, le Premier ministre Edi Rama assure avoir pris la décision après une série de concertations avec les parents d'élèves et l'administration scolaire. Mimi Kozeli est députée de la majorité socialiste et présidente de la Commission des affaires étrangères.
TikTok est un outil de communication sans filtre. Il rend accessible aux plus jeunes des scènes de violence qui deviennent partie prenante de leur éducation. Les familles nous ont demandé, avec insistance, de trouver un moyen de bloquer l'accès des mineurs à TikTok notamment.
Depuis son annonce, cette interdiction alimente les polémiques au sein de la société albanaise. Beaucoup d'entrepreneurs qui font leur publicité sur TikTok redoutent des pertes de revenus et de leur côté, les partis d'opposition accusent le gouvernement d'entraver la liberté d'expression. Surtout que d'importantes élections parlementaires auront lieu au printemps. Reddy Mucci est l'un des militants du mouvement Ensemble, un parti de gauche qui dénonce l'autoritarisme et les conséquences sociales des politiques libérales du Premier ministre Edi Rama.
Des élections législatives ont lieu le 11 mai prochain. Et c'est assurément une des raisons pour lesquelles le Premier ministre a choisi exactement ce moment pour interdire l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par le public albanais et qui est une plateforme très importante pour un jeune parti comme nous. C'est purement et simplement de la censure. Le Premier ministre contrôle les médias traditionnels, il peut manipuler les autres réseaux comme Facebook ou Instagram et là, il choisit de bloquer le seul sur lequel il n'a pas d'influence.
Alors que l'interdiction de TikTok devrait entrer en vigueur dans les prochaines semaines, le gouvernement assure que ce blocage ne devrait durer qu'une année, le temps de trouver une solution technique pour empêcher son utilisation par les moins de 18 ans.
Lutter contre la désinformation et protéger les enfants en respectant la liberté d'expression, c'est un équilibre délicat. À l'image de la France ou de l'Australie ces dernières années, Ankara en Turquie veut instaurer une majorité numérique. Autrement dit, fixer un âge en dessous duquel les enfants ne pourront pas s'inscrire sur un réseau social, en tout cas pas sans l'accord parental. Mais dans un pays connu pour sa censure d'Internet, le sujet fait débat. Les explications de notre correspondante Anand Lauer.
La Turquie est l'un des pays du monde où les réseaux sociaux sont les plus populaires, notamment chez les plus jeunes. Selon une étude officielle publiée à l'automne dernier, plus de la moitié des enfants turcs de 6 à 10 ans utilisent un ou plusieurs réseaux. Chez les 11-15 ans, la proportion grimpe jusqu'à 80%. Par ailleurs, quel que soit leur âge, la quasi-totalité des enfants qui naviguent sur les réseaux le font de manière régulière, c'est-à-dire tous les jours. La moitié y passe même plus de 2 heures par jour le week-end. Que voit-il sur l'écran? Avec qui échangent-ils? Quel impact sur leur santé physique et mentale, leur réussite scolaire, la société en général? Comme d'autres, les autorités turques citent pêle-mêle la violence, l'incitation à la violence, le cyberharcèlement, la pornographie, la pédocriminalité. Mais le pouvoir insiste aussi sur la désinformation qui aurait tendance à se propager plus vite chez les plus jeunes. Venant d'un gouvernement qui a l'habitude de censurer les contenus qui le dérangent au nom de la lutte contre la désinformation, cet argument inquiète les défenseurs de la liberté d'expression. L'actuel ministre des Transports voulait initialement interdire l'usage des réseaux aux enfants de moins de 16 ans, comme l'a fait l'Australie en novembre dernier. Mais face au débat suscité sur l'efficacité de cette mesure, il semble que la Turquie se dirige vers un compromis, interdire les réseaux aux moins de 13 ans et instaurer un accord parental pour les enfants de 13 à 16 ans. Le gouvernement souhaite aussi, pour cette dernière tranche d'âge, obliger les plateformes à limiter le temps d'écran en bloquant l'accès aux enfants entre 23h le soir et 6h le matin, sans toutefois préciser comment la loi serait appliquée. Le gouvernement rappelle que la Turquie se réserve le droit d'interdire les réseaux qui ne se conforment pas à sa législation en matière de protection de la jeunesse. Pour ce motif, Ankara bloque depuis août dernier l'accès à la plateforme en ligne de jeux vidéo Roblox, très populaire auprès du jeune public, et a interdit en octobre la plateforme de discussion Discord, très prisée des amateurs de jeux vidéo. La Turquie dit enfin vouloir développer son propre réseau social à destination des plus jeunes, afin de protéger, je cite, « sa structure sociale ».
Dans son livre « Allô Paris, ici Moscou » paru chez De Noël, Nicolas Quesnel décrypte la manipulation de l'information en Europe et en France par la Russie. Le journaliste indépendant, spécialiste du renseignement et de la guerre médiatique, revient sur le cas de la Roumanie où les élections ont été annulées suite à des manipulations du réseau TikTok. Il explique que ce pays sert en fait de terrain d'expérimentation à la Russie pour ses campagnes d'ingérence en Europe et aux États-Unis. Frédéric Lebel a rencontré Nicolas Quesnel et lui a demandé comment procédait le Kremlin.
Alors en fait, c'était assez intéressant. On a continué une enquête qui, pour moi, avait commencé en 2021, quand un YouTuber en France, qui s'appelle Léo Grasset, a été approché par une entreprise qui se prétendait anglaise, mais qui en réalité était russe, pour lui proposer de l'argent pour faire de la désinformation sur le vaccin de Pfizer. On était en pleine pandémie à ce moment-là. Et en fait, il y avait quand même une question qui était restée en suspens à la fin de notre enquête, qui est qu'on ne connaissait pas le client final. Et il se trouve qu'il y a quelques mois, j'ai été contacté par un collègue en Roumanie qui a affirmé avoir mis la main sur des documents qui permettaient d'en savoir plus sur l'entreprise qui avait approché le YouTuber français. Et on s'est rendu compte qu'en fait, cette entreprise n'était absolument pas née ni en 2020, ni en 2021, mais qu'en réalité, elle travaillait depuis au moins 2016 en Roumanie et elle a dépensé des millions d'euros en Roumanie pour faire de la désinformation au service généralement des intérêts russes.
De quelle manière ?
Ça a été assez multifactoriel, en fait. Il y a eu du financement d'influenceurs, on a eu des faux sites web, on a des campagnes numériques de publicité très agressives, et on a même peut-être un lien avec une autre opération dont on a beaucoup parlé en France, qui est l'opération Doppelganger. Donc en fait, c'est un mélange. Il y a évidemment la création et l'usurpation d'identité de journaux dans le monde, en Europe, pas mal en France notamment, mais il y avait aussi autre chose. Il y avait des campagnes de cartoons, de dessins, c'était encore une fois, il y avait plein de moyens d'action et tout ça était regroupé au sein de la même opération qui s'appelle Doppelganger.
Vous dites qu'il y a finalement une très grande naïveté de la part des institutions européennes et françaises face à cette menace de désinformation russe. En France, on a l'impression que l'État commence à prendre la mesure du danger simplement après l'assassinat du professeur Samuel Paty.
Je pense que la naïveté qui a eu lieu, qui a eu cours pendant des années, a commencé à arrêter d'exister. Principalement, pour moi, le vrai coup de tocsin, ça a été l'invasion du 24 février 2022. Et ce qui est dramatique, c'est qu'il a fallu attendre le 24 février 2022 pour avoir une vraie prise de conscience des pouvoirs publics sur ce sujet-là, quoi.
L'exemple de l'armée est particulièrement intéressant. L'armée qui semble avoir pas mal tâtonné avant d'avoir trouvé une réponse à donner à la désinformation russe qui est particulièrement présente en Afrique.
Ouais, alors l'armée, c'est toujours un secteur un petit peu délicat. Il faut quand même noter que, même si eux s'en défendent, qu'il y a eu quand même plusieurs sujets dans la presse qui parlaient d'une quantité d'officiers supérieurs pro-russes au sein des forces françaises. Évidemment, l'armée minimise ce souci. En attendant, je pense qu'il y a quand même un vrai sujet. Je pense qu'on l'a vu plusieurs fois avec, c'est pas uniquement des cartes rondes de généraux deux étoiles à la retraite, comme ça a pu être dit. Je pense que le problème est peut-être un peu plus profond que ça et un petit peu plus institutionnel que ça. Après, l'armée, effectivement, s'est aussi mise sur le pas de guerre, hein, vous me pardonnerez cette expression un peu facile, pour lutter contre l'ingérence russe. Et on a eu d'ailleurs des faits d'armes, pour le coup, de l'armée française, où il y a eu de vrais succès.
Succès, par exemple, au Mali.
Succès par exemple au Mali, quand l'armée française avait quitté la base de Gossi, ils avaient eu quand même la bonne idée de laisser un drone en stationnaire au-dessus de la base, ce qui leur a permis de filmer en fait les mercenaires de Wagner à l'époque en train de creuser des fosses communes pour y déposer des corps de citoyens maliens qui ont été assassinés justement par les hommes de Wagner à quelques kilomètres de là, et ils ont littéralement construit une fosse commune pour essayer de blâmer la France de ses exactions, ce qui n'a pas marché parce qu'on avait quand même un drone qui a filmé l'intégralité de la scène. Donc ça, typiquement, c'est une opération qui avait parfaitement réussi.
Mais il y a toujours ce questionnement sur est-ce qu'il faut répondre du tac au tac, quitte à donner plus d'ampleur à cette désinformation, ou se taire, et là-dessus, rien n'est vraiment tranché encore.
Non, en fait, c'est à chaque fois, c'est au cas par cas. En fait, c'est ça, c'est au cas par cas. Il y a des opérations russes qui sont tellement mal foutues, concrètement, qu'il vaut mieux éviter d'en parler, parce que de toute façon, personne n'en parle, personne ne va en parler, alors autant éviter de leur donner de l'exposition. Au contraire, il y a des opérations où je pense qu'on a des capteurs qui permettent de voir que telle opération ou telle opération commence à monter dans le débat public, auquel cas, il peut y avoir un intérêt à agir pour justement contrer quelque chose qui est en train de monter. Après, c'est jamais une science exacte, et surtout, c'est du cas par cas à chaque fois.
Merci beaucoup Nicolas Quesnel.
Merci à vous.
Nicolas Quesnel, auteur de « Allô Paris, ici Moscou », paru aux éditions de Noël. Il répondait aux questions de Frédéric Lebel. En Slovaquie, un étudiant a été très remarqué cette semaine, et pas seulement parce qu'il a remporté un prestigieux prix de mathématiques. La vidéo de la remise de ce prix est devenue virale après qu'il a très ostensiblement refusé de serrer la main au président de la République slovaque, Petr Pellegrini. Les explications à Bratislava d'Alexis Rosenzweig.
Simon Omanik za zisk bronzovej medaili na stredoeuropskej matematickej olimpiade v Segede v Maďarsku.
Le geste est sobre mais ferme. Après les félicitations pour sa médaille de bronze décrochée lors d'une récente compétition de maths, le jeune Simon Omanik refuse la main tendue par le chef de l'État, puis pose à côté de lui pour la photo protocolaire, avec sur sa veste un grand ruban aux couleurs de l'Ukraine voisine. L'étudiant de 19 ans a justifié son geste en indiquant avoir un problème avec la politique du président. qu'il accuse d'avoir menti pendant la campagne électorale, notamment au sujet de l'Ukraine envahie par la Russie. Les autorités slovaques ont actuellement un réel contentieux avec les autorités ukrainiennes, non seulement à cause du gaz russe, mais aussi parce qu'avec le Hongrois Viktor Orban, le Premier ministre slovaque Robert Fico est le seul à s'être rendu à Moscou pour rencontrer Poutine récemment. Le président, Peter Pellegrini, avait lui-même demandé à Viktor Orban de lui arranger une visite au Kremlin pendant la campagne pour les élections en 2020. Face au retentissement qu'a eu cette vidéo sur les réseaux et dans les médias, le président slovaque a déclaré qu'il respectait le geste de l'étudiant, même si lui considère qu'il faut serrer la main de tous ceux qui l'attendent, même des adversaires politiques. Robert Fico a en revanche verbalement attaqué l'étudiant et ses parents dans son style caractéristique, faisant aussi immédiatement le lien avec la presse qu'il appelle les médias de Soros, en référence au milliardaire américain George Soros. Simon Omanik, dont le courage est loué par certains, a été critiqué par les partisans du gouvernement en place à Bratislava. Certains influenceurs et désinformateurs pro-russes se sont empressés de déverser leur haine contre l'étudiant et contre sa famille, allant jusque devant le bâtiment où il prend ses cours.
Music. Et on retrouve Vincent Théval pour la sélection musicale. Bonjour Vincent.
Bonjour Juliette, bonjour à tous.
Aujourd'hui, on traverse les Pyrénées.
Et oui, depuis une grosse dizaine d'années, le groupe espagnol Hinz trace son chemin avec une pop à guitare accrocheuse et rythmée. Un chemin qui emmène le quatuor de plus en plus loin, puisque Hinz a été adopté par des aficionados dans le monde entier et a marqué 2024 avec Boom Boom Back, un petit tube co-signé avec le chanteur américain Beck. Le titre figure en bonne place sur leur quatrième album, crânement intitulé Viva Hinz. Le disque est paru il y a maintenant quelques mois, mais le groupe donne cette semaine le coup d'envoi d'une longue tournée qui va sillonner l'Europe avant de gagner les États-Unis au printemps. Et on parie que le single N-Forma sera un des moments forts de ces concerts.
Y quitar el polvo de una vez de mi cara, de mi cuarto, de mis tapas de correr y de mis pequeñas cosas que las oigo susurrar. Se preguntan y me increpan quién trajiste hoy a dormir. Venga, dile que se vaya, esto no es ningún hotel. Yo les digo que se callen, yo les digo que os calléis. Estoy en la cocina esperando a que se ponga el agua aquí. Pienso en ti en tu nueva casa, pienso que piensas en mí. Flaquita, te echo de menos, me sale recordar. Y sacudo la cabeza como un animal. Yo era capitana y navegaba en el desierto. Me he quedado encallada y solo veo tu mirada. Mírame, no puedo más. Mírame, no puedo más. Mírame, no puedo más. Mírame, no puedo más. Hace mucho tiempo que no pienso en la existencia como tal. ¿Quiénes somos los humanos y por qué hacemos el mal? He estado concentrada en subsistir un día más, en un estado ensimismado, intentando adelgazar. Hay un millón de vasos a medio beber. Pienso mientras sorbo de esta taza de antes de ayer. Ya no aguanto un día más, es hora de salir. Ya no aguanto.
La chronique musique de Vincent Théval avec N-Forma, un titre du groupe espagnol Hinz. À la réalisation Théo Raison, retrouvez Accent d'Europe en podcast quand vous voulez, mais tout de suite sur RFI, la suite de notre série de grands reportages sur le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.